Contraintes et précautions liées à l'exploitation d'un site, encore des contraintes, encore des précautions. J'espère que je ne vais pas vous faire fuir définitivement, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir une très belle journée à l'extérieur. Et donc je vais essayer de positiver en essayant de vous proposer un certain nombre de solutions, d'essayer de démontrer que ces contraintes, dans un certain nombre de circonstances, ne sont pas si contraignantes que cela, ou en tout cas que des solutions peuvent se trouver assez facilement. Donc, les thèmes que je vais traiter, bien évidemment, sont assez composites. Je vais exclure les problématiques de droit d'auteur extrêmement rapidement parce qu'elles ont été abordées à de nombreuses reprises, pour m'étendre sur d'autres types de mécanismes, d'autres types de contraintes juridiques qui peuvent peser concernant l'exploitation d'un site. Alors, d'abord, nous partons en termes d'introduction sur un principe de liberté, mais qui est une liberté sous condition. Je vous ai reproduit ici un extrait de l'article 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, dont je crois que vous avez une copie dans votre document de travail. Donc on part sur un principe de liberté de la communication électronique, donc liberté de réaliser des sites, mais contraintes liées au respect de la dignité de la personne humaine et de la propriété. Et donc je vais faire un petit tour d'horizon pour savoir quelles sont ces contraintes que l'on peut trouver. Alors, quelques conditions très rapidement énoncées en guise d'introduction. D'abord, une condition de transparence, puisque l'article 6.3 de la LCEN oblige à mentionner, à faire présenter un certain nombre de mentions sur des sites à finalité professionnelle, de façon générale. Donc, nous trouvons trois catégories de mentions qui sont obligatoires. D'abord, les coordonnées complètes des personnes physiques ou morales que l'on peut considérer comme éditeur. C'est complété par le nom du directeur ou co-directeur de la publication, du rédacteur en chef quand il y en a un. Et puis, donc, pour terminer, des coordonnées complètes, y compris le téléphone, de l'hébergeur. Donc là, c'est une contrepartie, si vous voulez, à cette obligation, à cette liberté de communication en ligne, qui permettra, s'il y a des contenus litigieux, évidemment, d'identifier l'émetteur, le responsable de ces contenus, notamment pour pouvoir réaliser des poursuites judiciaires ou à des fins de notification. Alors, il y a une exception que je n'aborde pas, qui concerne la publication à titre non professionnel, donc à titre individuel, puisque dans notre cadre, c'est essentiellement donc des finalités professionnelles qui nous intéressent. Le deuxième point, deuxième de cette introduction, c'est le respect, évidemment, deuxième contrainte, des données à caractère personnel. C'est la loi de 78 telle que modifiée en 2004, qui vise à encadrer à la fois la collecte, les collectes visibles, évidemment, formulaires que l'on peut remplir, inscriptions et autres, mais aussi les collectes invisibles, à travers notamment les cookies. Encadrement de la collecte dans un premier temps, et encadrement du traitement dans un second temps. Je n'irai pas plus loin dans cette voie, puisque ma collègue Karine Bernot fera un exposé de ces différents points juste après mon intervention. Troisième point, concernant le respect de la propriété littéraire artistique, là aussi ça a été abordé précédemment de façon intense, donc je n'irai pas très loin dans cette problématique. On se trouve face au millefeuille que vous connaissez maintenant, avec à la fois du droit d'auteur, mais aussi, comme on l'a vu ce matin, parfois du droit voisin des artistes interprètes, mais aussi des producteurs. Alors peut-être un point qui a probablement été moins abordé, et je vais vous en dire un mot, c'est le droit des producteurs de bases de données, aux articles L41 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, parce que il existe donc un droit sui generis qui permet donc de reconnaître une propriété sur un corpus documentaire. Et l'intérêt ou la particularité, c'est que cette protection peut s'appliquer indépendamment de la nature juridique de chaque élément que constitue ce corpus. Donc on peut avoir l'impression d'avoir affaire ou d'être en face de contenu libre, mais le travail de production, c'est-à-dire l'investissement qui a été nécessaire pour créer ce corpus, pour donc constituer cet ensemble, est protégé par un droit qui est un droit de propriété intellectuelle. Donc, ça fait naître des contraintes supplémentaires. Et ma petite grenade, effectivement, c'est que ce qui est trompeur, c'est que cela peut s'appliquer à des contenus qui, indépendamment, sont libres, puisque le droit sui generis, qui appartient au producteur de base de données, concerne l'ensemble du corpus informationnel qu'il fournit. D'accord ? Alors c'est l'extraction, donc il y a une interdiction de l'extraction non autorisée ou de la réutilisation d'un ensemble donc substantiel de données. Donc ça, il faut, sans aller plus loin dans les développements, c'est un point d'attention. Respect du droit à l'image, maintenant, quatrième point rapidement à balayer. Respect à l'image donc des personnes, j'ai entendu que ça avait été évoqué à travers l'article 9 du Code civil, l'article 226.1 et suivant du Code pénal. Ça, maintenant, c'est assez clairement identifié. Respect du droit à l'image des biens, là, c'est une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Il faut savoir maintenant, pour parler en termes de solutions, que depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004, finalement, la portée de cette contrainte est très légère, puisque il faudrait que cette exploitation crée un trouble anormal à celui qui est propriétaire du bien dont l'image est exploitée, ce qui est assez compliqué à démontrer. Voilà. Alors, point d'attention là aussi, puisque lorsque l'on exploite un bien ou lorsqu'on exploite l'image d'un bien ou l'image de personne, c'est dans la plupart des cas par le truchement de photographie, et donc se rendre compte que le photographe qui a réalisé la photographie est l'auteur de sa photographie, et donc on a là encore, on se retrouve face à notre millefeuille, puisque on a un intermédiaire qui est imposé, qui dans la plupart des cas, et là la jurisprudence est très laxiste, j'ose exprimer cette expression en faveur des photographes, puisqu'elle reconnaît de façon, une forme de présomption finalement, d'originalité et donc de protection du photographe, quelle que soit la nature de la photographie. Cinquième point, peut-être plus original, l'emploi de la langue française à travers la loi du 4 août 1994, dite la loi Toubon. Alors d'abord, une bonne nouvelle. Notre ancien ministre de la Culture, René Bonadieu Levavre, a répondu en 2007 à une question ministérielle à propos de l'interprétation de l'article 3 de cette loi de 94, et à la question qui a été posée de savoir si on pouvait considérer qu'un site internet était une inscription ou une annonce sur la voie publique, heureusement, il a répondu non. Donc il n'y a pas d'obligation, effectivement, que tous les contenus qui se trouvent sur Internet et qui sont produits en France soient exprimés en langue française. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, on trouve deux contraintes qui sont assez légères. D'abord, à l'article 7, il est prévu que un résumé en français soit disponible pour toute communication par une personne de droit public ou qui est investie d'une mission de service public. Et puis, là, c'est le porte-monnaie auquel on touche, puisque lorsqu'il y a attribution de subventions publiques, de fonds publics, financement public, l'organisme qui réalise ce financement doit vérifier a priori que la loi dite Toubon est bien respectée. Donc là aussi, il y a un point d'attention avec une contrainte assez légère. Sixième et dernier point concerne donc le cumul possible avec les obligations du fournisseur d'hébergement, donc l'application de la LCEN. On l'a très légèrement évoqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, l'activité éditoriale, lorsque ce sont les plateformes techniques de l'établissement qui sont sollicitées, eh bien, on se retrouve dans un contexte où l'établissement est à la fois éditeur, mais aussi hébergeur, et donc la LCEN prévoit, on évoquait des évolutions ce matin, mais je crois que l'application de la loi est en train de se stabiliser, était assez satisfaisante, face donc à un principe de retrait des contenus litigieux sur notification, le fameux principe de notice and takedown, à l'article 6.5 qui était repris de la loi américaine. Donc là, c'est pour les contenus tiers essentiellement. Et puis, une deuxième obligation donc que l'on trouve à l'article 6.2, qui est une obligation en termes de conservation des données de collection, si on avait besoin de pouvoir prouver un certain nombre d'interventions, de manipulations, d'ajouts de contenu sur les serveurs. Alors, après avoir balayé très rapidement ces différents points d'introduction, je voudrais passer quelques minutes sur deux types de problématiques. D'abord, première problématique, celle des contraintes qui sont liées, on peut appeler, aux pratiques de promotion. Donc aux pratiques de promotion, à travers la promotion par le monde domaine, la promotion par l'indexation et la promotion par le courriel. Alors c'est un peu périphérique, évidemment, mais ça permet de balayer un grand nombre de difficultés juridiques. Et puis, dans un deuxième point, on intervient sur les contraintes et les contenus que je vais appeler paraéditoriaux. Je vous en dirai un peu plus dans quelques minutes. Alors, promotion par le domaine, pour commencer, eh bien, il s'agit dans un premier temps de réfléchir sur les règles de choix en ce qui concerne les noms de domaine de première génération, hein, les noms de pays ou les termes génériques. Alors, pour le choix d'un nom de domaine, il y a de façon commune dans l'application des chartes de nommage, en tout cas pour la plupart d'entre elles, pas de contrôle de disponibilité juridique a priori. Donc on se retrouve dans la règle dite du premier arrivé, premier servi, et on repousse les difficultés juridiques, finalement, lorsqu'il y a des contentieux, par le traitement donc des juridictions. Alors, lorsqu'il y a un conflit, comment peut-on l'apprécier? Eh bien, le conflit va être, en règle générale, réglé au vu de deux points. Premier point que l'on prend en considération, c'est la spécialité, donc à savoir la signification donc de ce nom de domaine, et notamment la prise en compte du risque de confusion à l'égard d'une personne qui pourrait revendiquer le même nom de domaine. Et puis, le deuxième point, c'est l'antériorité de l'usage effectif. Quelle est entre la marque et le nom de domaine, par exemple, ou la marque et l'enseigne ou le nom commercial, la personne qui a eu un usage effectif dans la même spécialité qui est le plus ancien. Et dans ces cas-là, c'est cette personne qui, lorsqu'il y a confusion possible, va pouvoir démontrer sa légitimité à utiliser cette expression. Alors, ce qui est intéressant en conclusion, c'est que une marque peut rendre indisponible un nom de domaine et réciproquement. On aboutit à une depuis les décisions notamment une décision de la Cour de cassation de 2005, à une espèce de reconnaissance du nom de domaine comme signe distinctif bénéficiant d'une quasi-protection et donc la prééminence ou la domination de l'un sur l'autre peut se faire uniquement en contemplation des critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Il n'y a pas de jugement de valeur a priori. Alors, depuis le décret du 6 février 2007, eh bien, il y a quelques particularités pour le CCTLD en point FR qui pose quelques questions, d'autant plus qu'on a une première décision de justice le 6 février 2007 qui statue en appliquant ce décret. Décret, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de sites et vous êtes beaucoup concernés par l'adoption du point FR, mais le premier point, c'est d'abord que ce décret institue une protection du nom des institutions et des services publics, donc une espèce de réservation a priori d'une impossibilité de l'utiliser, sauf évidemment par ses propres établissements ou avec l'autorisation, donc ça crée une forme de protection, y compris pour nous, établissements universitaires. Et puis, plus étrange et plus difficile à gérer, c'est l'indisponibilité des noms qui sont protégés par la propriété intellectuelle. Et donc là, ça vient contredire un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que il n'y a plus de référence à la spécialité, donc à la confusion. Mais en revanche, il y a néanmoins, en tout cas c'est ce que l'on peut percevoir à travers le texte, une prise en compte de l'intérêt légitime qui est mise en œuvre de bonne foi. Donc alors, on en est au début de l'application, mais c'est évident que ça crée des difficultés puisque on n'a plus cette possibilité d'apprécier la spécialité, donc on va créer des concurrences et des interdictions d'utilisation ou des transferts de nom de domaine, même s'il n'y a aucun risque de confusion possible, et donc il n'est plus nécessaire de démontrer une antériorité d'usage pour pouvoir faire interdire ou pour pouvoir se faire transférer un nom de domaine. Deuxième point, promotion par le référencement. donc volonté, possibilité de doper le référencement par donc des balises d'État ou par des liens sponsorisés, qui sont des pratiques courantes et nécessaires pour qui veut communiquer sur Internet. Là, deux principes, mais de bon sens. Premier principe, c'est un impératif de bonne foi et de loyauté des pratiques. Donc, il ne faut pas chercher à tromper le concurrent. Et cette pratique est, on va dire, renforcée par une appréciation jurisprudentielle très large de la contrefaçon de marque, hein, qui aboutit donc à la conclusion suivante, ou à la préconisation suivante, c'est qu'il vaut mieux éviter toute utilisation des signes distinctifs d'un tiers. Hein, que ce soit donc dans les balises d'État et a fortiori dans les contrats de référencement, si certains d'entre vous les utilisent, ce qui n'est pas évident. Ça pose de grandes difficultés. Aujourd'hui, la Cour de cassation, donc le 20 mai dernier, donc c'est très récent, a décidé de renvoyer la question devant la Cour de justice des communautés européennes pour ce qui concerne les contrats de référencement. Le troisième et dernier point, c'est la promotion par le courrier, l'utilisation du courrier électronique. Première considération, d'abord, le public postage n'est pas une correspondance privée. C'est une communication publique qui doit respecter l'ensemble des droits laitiers, et notamment tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, et ce que vous avez évoqué hier, ou ce qu'on a pu évoquer ce matin, sur la propriété intellectuelle. Le deuxième point, c'est que les courriers non sollicités, appelés aussi pourriels, sont prohibés. C'est l'article 22 de la LCEN et on trouve une trace à l'article L120-25 du Code de la consommation et au Code des postes et des communications électroniques à l'article 33-4-1. Alors, avec deux conséquences. D'abord, l'obligation d'un consentement préalable, c'est la consécration de ce qu'on appelle le principe de l'opt-in, donc le choix d'accepter à l'intérieur. Et puis, quand même, quelques tempéraments qui peuvent être intéressants dans le cadre de nos activités. D'abord, on a là, contrairement à l'opt-in, un principe, une possibilité d'opt-out, c'est-à-dire le choix fait par l'internaute de ne plus être sollicité, et donc la possibilité de le solliciter sans qu'il en ait fait la demande dans un premier temps. Donc opt-out en présence d'une relation commerciale préexistante, donc dès qu'on a eu un lien commercial, une relation, quelle que soit son importance, eh bien on peut le ressolliciter au moins une première fois, et tant qu'il ne refuse pas, on peut continuer à le solliciter. Et puis on a la règle de l'opt-out aussi qui s'applique en matière de prospection, donc là sans qu'il y ait de contact préalable, mais uniquement auprès de professionnels dans le cadre de leur activité. Donc voilà, ce sont globalement des règles de bon sens qui visent à protéger l'individu et d'une certaine façon la vie privée. Alors, contraintes et contenus que j'ai appelés para-éditoriaux. Les contenus éditoriaux sont régis par les questions de propriété intellectuelle que vous avez déjà largement évoquées, en tout cas pour l'essentiel. Trois points. D'abord, qu'en est-il des contenus produits par les utilisateurs, la responsabilité sur l'existence et la mise à disposition de ces contenus. Quelques mots sur la création et l'exploitation de liens hypertexte. Et puis, pour terminer, une observation très, très, très générale sur les problématiques de licence sur les outils que l'on utilise pour produire des sites. Alors, contenus produits par les utilisateurs, ce sont les posts sur les forums, les blogs qui apparaissent de plus en plus, y compris sur des sites à vocation pédagogique ou de e-learning pour renforcer l'interactivité et augmenter les contenus. Le nombre des contenus, en tout cas. Alors, deux observations principales qui dépendent de situations légèrement différentes. Première situation, qui est la plus fréquente à mon avis, c'est que le contrôle sur le contenu tiers est limité de la part de l'institution qui le met à disposition. Donc, c'est l'absence de modération, ou une modération qui est limitée, ou une modération a posteriori. Là, la règle juridique, en tout cas, qui semble s'imposer, commence à devenir relativement claire. C'est une assimilation à de l'hébergement, ce qui finalement est assez sécurisant Et qui dit donc hébergement, dit principe de retrait sur notification que j'ai évoqué tout à l'heure par la SCVN. Donc il n'y a pas de contrôle a priori du contenu, il y a simplement une diligence qui est celle de recevoir les notifications et de réagir promptement donc si la notification réalisée en bonne et due forme. C'est ce vers quoi semble se tourner à la fois la pratique et la jurisprudence. Plus rare et deuxième situation, c'est le contrôle total du contenu, c'est-à-dire un vrai travail d'édition ou de réédition sur le contenu tiers, travail de réorganisation, de sélection, d'intégration manuelle, d'indexation, etc. Là, effectivement, c'est une assimilation qui est plus à l'édition, qui s'assimile à l'édition, et qui dit édition dit une responsabilité de plein droit telle qu'elle a pu déjà être évoquée. Vous voyez, on voit bien cette dualité entre le rôle et la responsabilité de l'hébergeur, qui n'est pas censé contrôler le contenu, ni voir peser sur lui une obligation de surveillance générale, et les obligations de l'éditeur, évidemment, qui a un rôle beaucoup plus actif, beaucoup plus positif. Pour ce qui concerne la création de liens hypertextes, il y a aussi beaucoup de questions. Les juristes ont beaucoup réfléchi sur les responsabilités liées à cette espèce d'alien qui est le lien hypertexte, qui n'avait pas d'existence juridique et qui est assez difficile à cerner. On peut considérer que globalement, les pratiques sont autorisées. La pratique des liens hypertextes sont au cœur même de toute la communication électronique et du web en tout cas, les pratiques sont autorisées sous réserve du respect de trois conditions. Première condition, c'est que la formulation du lien doit être neutre, ou relativement neutre. Deuxième condition, c'est que ce lien doit pointer vers une page d'accueil. Quand c'est pas un lien interne, ça n'a aucun intérêt. Quand c'est un lien donc qui pointe vers une ressource tiers, la deuxième condition, c'est qu'il doit pointer le plus possible en amont dans l'arborescence du site ou de la ressource pointée, pour éviter évidemment tout risque de confusion. La troisième possibilité, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça n'a jamais été érigé comme une condition, en tout cas ni par la loi ni par la jurisprudence. Ça apparaît dans certaines chartes et une étiquette, comme on dit. C'est l'information, au moins, pas l'autorisation, mais l'information donc du webmestre de la page du site vers lequel on pointe. Alors, à côté de ces pratiques globalement autorisées, eh bien, revers de la médaille, d'autres pratiques sont interdites sans autorisation expresse. Et là, on va retrouver l'inverse. Première pratique, d'abord, c'est un lien à partir d'un élément protégé. Quand le lien hypertexte lui-même est un logo, est une marque nominale, est une photographie d'un produit ou autre chose, là, effectivement, on n'est plus dans une pratique qui est libre. Et puis, le deuxième point, eh bien, c'est le contrepoint de ce qui a pu être dit vers l'obligation, le conseil de pointer vers la page d'accueil, c'est que lorsqu'on a une mise en œuvre du lien qui permet d'entretenir la confusion sur l'origine de la ressource, il faut une autorisation claire. Alors, ce sont les pratiques du linking, du deep linking, du framing, donc tout ce qui intègre soit pointe de façon des liens profonds qui pointent vers des ressources mêmes sans faire apparaître le contexte et la présentation du site vers lequel on pointe, et même des pratiques encore plus gênantes telles que conserver donc tout le fenêtrage de son propre site en faisant apparaître à l'intérieur donc un contenu qui serait extérieur. Alors, en revanche, si on utilise ces précautions, une petite point qui est rassurant, c'est que globalement, l'éditeur d'un lien, la personne qui crée un lien, n'est jamais considéré comme responsable de ce vers quoi son site ou son lien pointe. Donc, il n'y a pas de responsabilité sur les contenus pointés. C'est-à-dire que si le contenu pointé évolue, il est aujourd'hui extrêmement délicat de mettre en cause la responsabilité de la personne qui a mis en œuvre ce lien. Il y a une petite réserve, on a quelques jurisprudences, quelques décisions qui sont assez inquiétantes, notamment en matière de flux RSS. On a pu considérer que dans un certain cadre, lorsqu'il y avait une une mise en forme, une intégration du flux RSS au sein du site, eh bien, on pouvait donc mettre en œuvre la responsabilité de l'éditeur, on va dire, du site qui intégrait ces liens RSS en raison du caractère litigieux de l'information rendue, confiée par l'existence de ce lien. Troisième et dernier point, il s'agit de l'étendue des licences sur les outils, mais ça, probablement, le connaissez-vous par cœur, mais là, on n'est pas sur le droit d'auteur du contenu, mais sur le droit d'auteur du contenant, pour l'essentiel. Donc, droit d'auteur des contenants, ça veut dire que il faut se rendre compte que lorsqu'on utilise certains outils qui fournissent du code que l'on conserve, lorsque l'on met à disposition, eh bien, il y a certaines précautions à prendre. Et de la même façon, il y a des contenus que j'appelais des contenus accessoires, des cliparts, des typos, des boutons, des trames, des feuilles de style, et que il faut avoir donc conscience que l'on peut utiliser à la marge des objets qui sont protégés notamment par la propriété intellectuelle, et qu'il faut d'abord, je le dis assez fréquemment, mais les gens sourient, mais malheureusement, en général, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Il faut vérifier d'abord d'être utilisateur légitime des outils de développement que l'on utilise. Ça, c'est du bon sens, mais en tout cas, dans certains établissements, c'est pas toujours le cas. Et puis, le deuxième point, c'est de vérifier, parce que là aussi, on peut avoir des surprises, si les licences grâce auxquelles on peut utiliser ces outils autorisent effectivement donc le type d'exploitation que l'on souhaite en faire, notamment concernant un certain nombre de lignes de code qui pourraient être conservées et mises à disposition des tiers, soit de contenus accessoires type clipart, typographie et autres. Et on a un certain nombre de surprises, notamment lorsqu'on utilise des ressources, soit des ressources en ligne, soit des ressources sur CD ou DVD, dit de libre de droit, alors d'images, d'accompagnements musicaux et autres, qu'on est très tenté, enfin que les développeurs ou les créateurs sont très tentés d'utiliser, qui sont très 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 commodes, et dont on s'aperçoit en lisant les licences, ben finalement que elles sont pas si libres que ça, et notamment que si des utilisations à finalité non lucrative sont tout à fait possibles, même lorsqu'elles sont communiquées à un public indéterminé, en revanche, dès qu'on a une utilisation lucrative, la licence donc ne couvre pas ce type d'exploitation. Donc il faut simplement par curiosité bien vérifier que l'utilisation des outils et des micro-contenus de ces outils que l'on peut être amené à faire soit bien couvert par la licence que l'on a sur ces outils.
Merci Monsieur Latreille. Je vais demander, merci beaucoup. Karine Bernot d'avoir la gentillesse d'être très synthétique, parce qu'on a consommé notre crédit temps.
Donc, sous l'angle de la protection des données personnelles, effectivement, alors vous le savez tous, il y a deux textes à prendre en compte. Pardon. Il faut que... Voilà. Protection des données personnelles, c'est d'abord le texte bien connu de la loi de 78 qui a été évoqué tout à l'heure, connu sous l'angle de l'informatique et liberté. Et puis aussi, dans le cas particulier qui nous intéresse, cet arrêté ministériel du 30 novembre 2006, que vous trouvez d'ailleurs dans vos classeurs, qui s'applique aux ENT, donc espaces numériques de travail, lesquels sont définis très rapidement comme des sites web portails permettant d'accéder via un point d'entrée unique et sécurisé à un bouquet de services numériques. Donc on est vraiment dans le cas de figure qui nous intéresse. Alors, pour commencer simplement, très rapidement, vous donner des repères sur le champ d'application des textes, très rapidement, je vous rassure, pour ensuite voir concrètement comment s'organise la protection de ces données personnelles à travers les obligations qui pèsent sur le responsable d'un fichier et puis les droits qui sont reconnus à la personne fichée. Alors, protection des données personnelles, vous avez là la définition légale qui, vous le voyez, est très longue, mais en réalité, on peut la résumer très simplement. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne physique. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, une adresse de courrier électronique est évidemment une donnée personnelle. Et la loi de 78 organise, encadre le traitement de ces données. Donc, deuxième question, qu'est-ce que le traitement d'une donnée personnelle? Là aussi, la définition est longue, mais finalement, on peut la résumer simplement, puisque vous le voyez, je vous ai souligné la partie la plus intéressante. Un traitement, finalement, c'est toute opération portant sur des données personnelles. Donc, finalement, dès que vous êtes en présence de données personnelles et que vous les exploitez, la loi de 78 s'applique et donc doit être respectée. Alors maintenant, très concrètement, quelles sont, dans un premier temps, les obligations du responsable, donc, d'un fichier de données personnelles? Alors, il y a un certain nombre d'obligations. Simplement, je vous signale, je ne vais pas y revenir à chaque fois, que ces obligations sont sanctionnées pénalement. Des peines variables, mais il y a quand même des peines de prison et des peines d'amende qui peuvent être assez lourdes, jusqu'à 300 000 euros d'amende. Donc ce n'est quand même pas négligeable. Alors concrètement, quelles sont ces obligations? D'abord, une obligation de loyauté de la collecte des informations. On ne peut pas, on ne doit pas collecter des données personnelles à l'insu de la personne concernée. La CNIL exige sur ce point un accord express. Donc c'est assez clair. Loyauté de la collecte qui se manifeste donc dans l'arrêté de 2006 que j'évoquais tout à l'heure sur les ENT. Simplement, on a identifié, vous le voyez, les sources des données pour les ENT. Collecte qui peut donc être faite directement auprès des usagers ou par l'intermédiaire donc des systèmes d'information mis en œuvre aussi bien par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur que par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est la première chose. Je ne pense pas que ce soit le point qui pose le plus de difficultés, a priori. On verra ce que vous en direz pour les UNT. Ensuite, deuxième point, obligation de contrôler la sécurité du fichier. Alors, contrôler la sécurité du fichier, ça veut dire assurer le respect de la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'il faut, là, mettre en place vraiment un système très sûr. N'importe qui, pour une chose simplement, ne doit pas pouvoir accéder aux données personnelles que vous avez collectées. Donc ça veut dire évidemment sécuriser les ordinateurs, ça peut vouloir dire aussi, selon les cas de figure, sécuriser les locaux dans lesquels se trouvent les ordinateurs. Ça peut aller jusque-là, la CNIL là aussi le prévoit. Mais cette obligation de contrôler la sécurité, c'est aussi une obligation de préserver l'intégrité des données. C'est-à-dire, une fois que les données sont collectées, on ne doit pas pouvoir non plus, n'importe qui, là encore, pour reprendre la même formule, ne doit pas pouvoir modifier les données qui ont été collectées, puisqu'il y a un principe, on le verra, d'exactitude des données personnelles. Alors, pour la CNIL, pour les ENT, la CNIL insiste particulièrement sur le respect de ces règles de sécurité, en soulignant notamment que ça implique le fait que chaque utilisateur des ENT ne doit pouvoir accéder qu'aux données qui le concernent lui, personnellement, ce qui est sans doute assez logique. Mais autre point aussi qui est souligné par la CNIL, il est indiqué que les responsables des fichiers doivent sensibiliser les utilisateurs des ENT à la nécessité de préserver la confidentialité de leur code d'accès. L'identifiant, le code d'accès doit évidemment rester confidentiel pour que ce principe de sécurité soit assuré, et il appartient aux responsables des fichiers de sensibiliser les utilisateurs sur ce point. Alors la formule en même temps de sensibilisation est quand même relativement vague, mais la mention est tout de même apportée. Ensuite, obligation aussi de respecter la destination initiale du fichier. On collecte les données dans un but précis, les données ne doivent être utilisées que dans ce but. Voilà le principe pour le formuler rapidement. Ensuite, je vais peut-être m'arrêter un petit peu plus longtemps parce qu'il y a des applications particulières pour les ENT, une obligation de ne conserver les données que pendant une période limitée. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Alors, période qui en principe est définie dès le départ, au moment de la constitution du fichier. Pour les ENT, pour en venir directement à ce qui nous intéresse, l'arrêté de 2006 dont je vous parlais tout à l'heure prévoit des règles particulières, dans son article 6 plus précisément, règles selon laquelle ces fameuses données doivent donc être mises à jour, vous le voyez, au début de chaque année scolaire ou universitaire. Et en toute hypothèse, lorsqu'une personne perd le droit d'accéder à l'ENT, les données qui la concernent doivent être supprimées dans un délai de 3 mois. Donc par exemple, un étudiant qui quitte l'université, il faut, en principe, supprimer les données qu'il concerne dans ce délai de 3 mois. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le droit à l'oubli. Seconde chose aussi, qui est envisagée expressément par l'AET, qui me semble intéressante, la question de savoir si on peut conserver les contributions des usagers dans ce qu'on appelle les espaces communautaires. Un utilisateur intervient dans un forum, par exemple, un forum d'échange, un espace communautaire. Est-ce que le jour où il cesse d'être utilisateur de l'ENT, donc je quitte l'université, on peut conserver ses contributions et les laisser toujours accessibles aux autres utilisateurs. Là aussi, la réponse est donnée donc dans cet arrêté, toujours dans ce même article 6. Vous le voyez, la règle, c'est qu'on peut conserver ces données à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques, sauf opposition du contributeur. Autrement dit, sachez que le contributeur peut, le jour où il quitte l'ENT, décider de s'opposer au maintien de ses contributions dans ces espaces communautaires. Donc, ça c'est dans l'hypothèse donc, d'une utilisation à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques. S'il s'agissait d'utiliser ces données, ces informations à d'autres fins, ces contributions à d'autres fins, là il faudrait une autorisation expresse du contributeur ou c'est prévu aussi une autorisation de la CNIL, éventuellement, dans ce cas de figure. Donc voilà sur le droit à l'oubli, obligation aussi qui pèse sur le responsable du fichier, qui est une obligation d'information à l'égard des personnes fichées. Alors sur ce point, il y a un modèle qui a été présenté par la CNIL qui regroupe en fait toutes les obligations d'information. Si on décode entre guillemets rapidement, sur quoi doit porter cette information? D'abord sur l'objet de l'espace numérique de travail. Quel est le but? Vous le voyez, l'objet est défini. Obligation d'information aussi sur le fait que l'accès est contrôlé. Chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux informations qu'il concerne. Obligation d'information aussi sur les droits des usagers. Donc droit d'accès, rectification, droit d'opposition, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Et puis obligation enfin d'identifier le responsable du traitement pour qu'il puisse être contacté pour permettre justement l'exercice de ses droits. Donc obligation d'information et puis dernière, alors une chose peut-être aussi quand même à vous préciser s'agissant de l'obligation d'information, sachez que l'arrêté de 2006 que vous avez donc dans vos classeurs doit en principe être affiché dans les locaux des établissements qui ont mis en place un ENT et il doit être consultable par tous les utilisateurs des ENT à partir de la page d'accueil du site. Donc ça peut être évidemment un lien qui conduit vers cet arrêté, mais dès la page d'accueil du site, on doit en principe pouvoir, comme tout utilisateur, doit pouvoir avoir accès à ce document. Et donc enfin, je vous disais, dernière obligation, déclarer le fichier à la CNIL. Alors là aussi, je vais aller à l'essentiel pour ce qui nous intéresse. Les ENT, sachez, sont considérés comme des téléservices de l'administration électronique, mais l'arrêté de 2006 a mis en place là un régime simplifié, finalement, puisque concrètement, simplement, chaque établissement qui décide donc de mettre en place un ENT doit uniquement procéder auprès de la CNIL à un engagement de conformité, c'est-à-dire tout simplement qu'on s'engage à respecter la loi et l'arrêté, évidemment, dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà pour les obligations du responsable du fichier. Enfin, on en arrive donc au droit de la personne fichée, entre guillemets, ce sera beaucoup plus rapide. Trois droits ont été reconnus donc aux personnes concernées. D'abord, un droit d'opposition. Sachez que toute personne doit pouvoir refuser que des données personnelles qui la concernent soient utilisées, sauf est important, si le traitement présente un caractère obligatoire. C'est-à-dire, par exemple, un étudiant qui s'inscrit dans une université peut difficilement s'opposer, par exemple, à ce que les données personnelles qu'il concerne soient utilisées dans un fichier pour organiser les examens. Parce qu'on voit bien que c'est indispensable, évidemment, au fonctionnement de l'établissement. En revanche, ce même étudiant pourrait parfaitement s'opposer à ce que les données qu'il concerne soient utilisées dans le cadre de l'ENT. Parce que là, évidemment, on n'est plus dans un caractère, ça n'a plus un caractère obligatoire ou indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Donc ça, c'est la première chose, droit d'opposition. Ensuite, droit d'accès aux données. Donc, on doit pouvoir, toute personne là aussi doit pouvoir, c'est le principe de transparence, accéder aux données qui la concernent. On ne peut demander que des frais de mise à disposition, donc frais de photocopie, frais d'impression, mais en principe, il y a ce droit d'accès qui doit être consacré, qui doit être reconnu, donc accès dans un délai raisonnable, évidemment. Et puis, c'est complémentaire, et ce sera le dernier point, un droit de rectification. C'est-à-dire que si j'accède à des données qui me concernent et que je constate une erreur, eh bien, je peux exiger la rectification et elle doit être faite. Ça rejoint le principe de transparence qu'on évoquait tout à l'heure. Donc voilà, c'était très rapide, mais vous voyez que les ENT sont donc soumis à des dispositions particulières à travers cet arrêté de 2006, mais finalement, ce ne sont que des applications à ce cas particulier, des règles générales posées par la loi de 1978.
Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Bernot. Alors, vont nous rejoindre pour la table ronde Mme Valérie Mercier du CERIMES et Mme Delphine Pommeret, qui est chargée du projet UVED. On commence tout de suite, si vous le voulez bien. Alors, les opérateurs, les représentants des opérateurs ont entendu les deux exposés qui se complétaient. Quelles questions complémentaires?
Quel problème? Oui, je pense qu'il y a un problème. Moi, c'est pour ça que je vais revenir en fait sur un point qui est la déclaration à la CNIL. Parce que donc, je suis donc chargée de projet de l'UNT UVED, mais je suis également gestionnaire du site. Et donc, le portail de l'UVED comporte en fait deux espaces. Un espace public et puis un espace adhérent. Et donc, pour accéder à cet espace adhérent, il faut obligatoirement un nom d'utilisateur et un mot de passe que je crée donc pour chacun. Et à partir et lors de la création en fait de ces identifiants, eh bien je renseigne aussi d'autres champs qui peuvent être tels que le nom, le prénom de la personne, sa fonction, voilà, son courriel, Donc voilà, et donc à partir de toutes ces données à caractère personnel, j'ai donc créé, ou en tout cas, on a pu créer en fait un annuaire des membres. Et donc avec tout ce que j'ai entendu précédemment, je suis en train de me dire que j'ai omis de déclarer à la CNIL voilà, toutes ces données qui concernent en fait voilà, les membres. Alors j'étais en train de me dire, voilà, est-ce qu'il est nécessaire, prudent, voire obligatoire, en fait, de déclarer à la CNIL des données à caractère personnel, même lorsqu'elles sont dans un espace voilà, privé et un espace adhérent, quoi.
Là, je crois que je vais pouvoir vous rassurer, finalement. il me semble que dans cette hypothèse-là, donc, quand on est dans cet espace adhérent, si j'ai bien compris, l'annuaire est dans l'espace adhérent, donc n'est accessible que par mot de passe, par identifiant. Donc il n'est pas public, enfin, il est public, mais réservé aux adhérents, donc on est bien dans le cadre de l'ENT. Donc, dès lors que vous avez fait cette déclaration simplement d'engagement de conformité à la CNIL, vous n'avez pas d'autre démarche à faire. C'est-à-dire, vous vous engagez simplement à respecter les obligations fixées par la loi. Vous le faites, bon, s'il y a un litige et que vous ne le faites pas, après, les tribunaux et la CNIL s'en chargeront. Mais la procédure, comme vous disiez tout à l'heure, pour les ENT a été simplifiée. Donc dès lors que le responsable de l'ENT a fait simplement cet engagement de conformité, il n'est pas nécessaire ensuite de faire une déclaration pour chaque traitement particulier des données personnelles.
Merci. Monsieur Latreille.
Après la ceinture, éventuellement les bretelles, de plus en plus, nos établissements se munissent de ce qu'on appelle les correspondants aux données personnelles, hein, qui sont, donc depuis la loi de 2004, qui sont donc une nouvelle fonction qui est créée, qui peut être d'ailleurs un fonctionnaire ou une personne extérieure, et que l'un des intérêts d'avoir un correspondant aux données personnelles dans un établissement, c'est qu'il est censé donc vérifier donc a posteriori le respect des dispositions de la loi informatique et liberté, et que l'établissement donc se trouve dispensé des différentes formalités auprès de la CNIL. Enfin, en tout cas pour l'essentiel, hein, quand il s'agit, sauf pour les données sensibles.
Merci Madame Mercier. Est-ce que de votre part il y avait des questions?
Alors très rapidement, pour ceux qui parmi vous ne connaîtraient pas Canalu, je voudrais juste rappeler qu'il s'agit de la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur. C'est un des projets qui est géré par le CERIMES, le Centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. Le CERIMES est dirigé par Hervé Lièvre, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et que je remplace donc ici. Donc il y a sur le site de Canalu plus de 3000 vidéos pédagogiques à destination des enseignants et des étudiants du supérieur, qui sont produites par les grands services vidéo des grandes universités françaises. Il y a 17 producteurs en tout aujourd'hui sur Canalu, dont l'Université de tous les savoirs, l'Université médicale virtuelle francophone, Vidéoscope pour les amphis de France 5 par exemple, l'Université de Toulouse, le Mirail, VO, Canal Géo, BioTV, Sciences en cours, il y en a d'autres. Et il y en aura beaucoup d'autres, nous l'espérons. Donc les vidéos sont classées sur Canalu dans les disciplines qui sont couvertes par les 7 UNT et le site compte environ aujourd'hui 400 000 visites mensuelles. Donc pour ce qui est des droits d'auteur, Canalu est le diffuseur. Donc les droits d'auteur sont gérés dans le cadre de conventions qui sont passées entre l'auteur et le producteur. Et alors pour ce qui est de mes questions, bon, il y en a beaucoup parce qu'en fait sur Canalu, une des préoccupations qu'on a, c'est de faire évoluer le site avec les techniques aujourd'hui qui existent, de façon à rendre l'exploitation de ces contenus la plus facile possible par les enseignants et les étudiants. Et donc notamment, le site a été refondu fin 2007 et on a mis en place un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y a le lecteur exportable. Donc c'est quelque chose d'assez classique maintenant sur les sites de vidéos. Ça permet de faire un copier-coller du code donc du player de la ressource pour pouvoir l'afficher dans un autre site ou un blog par exemple. Et nous avons ajouté à cette fonctionnalité de lecteur exportable une fonctionnalité qui permet de n'exporter qu'un extrait de cette vidéo. Parce que ça, c'est pratique pour certains enseignants qui veulent illustrer leur cours par un point précis de la vidéo et qui veulent n'utiliser que cette partie qu'ils auront eux-mêmes choisie, c'est-à-dire qui ne correspond pas forcément à une séquence qui a été créée par le producteur. En plus, les enseignants peuvent également modifier la taille du player pour l'insérer dans une feuille de cours, une feuille HTML qui diffuse. Donc, ça rentre dans plusieurs des cas que vous nous avez présentés avant. Est-ce que ça pose un problème juridique ?
Alors, je vois qu'il y a une grosse bataille pour répondre.
Ma première réaction peut-être de juriste perverse, ça aussi, c'est de dire que tout dépend de ce qu'il y a dans le contrat, finalement, parce que c'est évidemment une forme particulière d'exploitation. Donc vous avez, si j'ai bien conclu des contrats avec les producteurs des œuvres, puisque vous êtes diffuseur. Qu'est-ce qu'il y a dans les contrats? Qu'est-ce qu'ils vous autorisent à faire? Quel type d'exploitation? Il me semble que c'est un type d'exploitation qui peut très bien être prévu dans le contrat, qui sans difficulté, simplement, il faut que ce soit dans le contrat. Enfin, c'est le premier réflexe que j'aurais.
Un petit complément, c'est que vous n'êtes pas en lien direct avec les créateurs, avec les auteurs, d'après ce que j'ai compris. Donc vous êtes sous-cessionnaire, c'est un deuxième niveau de cession. Il faut simplement bétonner le contrat en mettant une bonne clause de garantie, une clause de jouissance paisible, comme on dit parfois en droit d'auteur, qui permet effectivement de pouvoir vous retourner si vous étiez assigné en contrefaçon pour ce type de pratique contre votre co-contractant. Mais alors, on revient aussi à ce qui a été évoqué par le professeur Cros ce matin, c'est qu'on a, de toute façon, au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès qui est avec le droit moral, et que le découpage en petits bouts, par exemple, et aucun contrat ne peut, puisqu'il serait considéré comme nul, ou en tout cas révocable ad nutum, ne peut autoriser à découper sans aucun contrôle un découpage ou la réalisation d'extraits, ou même le changement de contexte. Il y a une décontextualisation de la ressource, et on pourrait imaginer qu'un auteur soit d'accord pour que l'extrait de son œuvre, ou même l'œuvre intégrale ou son cours, soit présent sur un site institutionnel qui a une certaine tenue, mais dès lors que la même ressource se trouve sous la forme d'une vignette sur eBay ou sur VideoMotion, bien évidemment, la violation de son droit moral est assez évidente. Voilà, donc, quand même, attention, danger.
Merci. D'autres questions?
Un complément sur ce point. On en a parlé hier, donc je ne vais pas revenir en détail, mais il faut aussi peut-être se poser la question de savoir si dans certains cas, ça ne pourrait pas être couvert par l'exception de citation. Si vous reprenez un extrait qu'il est bref, que vous identifiez l'auteur, l'œuvre, et que c'est bien une finalité d'enseignement, d'information, de critique, rien n'interdit dans ce cas-là de considérer que l'exception de citation est applicable, comme on l'a dit hier. Donc tout dépend là, et c'est peut-être la limite pour vous par rapport au contrôle que vous avez de la brièveté de l'extrait. C'est-à-dire qu'après, si effectivement l'utilisateur reprend un extrait long, l'exception de citation ne s'appliquerait pas. Donc c'est peut-être là qu'est la difficulté après.
Merci. Madame Mercier, vous êtes satisfaite des réponses? Vous avez peut-être d'autres questions?
Juste peut-être, en ce qui concerne, on a parlé tout à l'heure du framing. Comme autre service que l'on propose sur Canalus, ça s'appelle les web services. Ça permet en fait de récupérer. On est en train d'essayer de développer ça sur justement l'ensemble des ENT. C'est-à-dire qu'un étudiant, lorsqu'il se log à sa plateforme, pourrait avoir un accès direct via un moteur de recherche au programme de Canalus. Et donc ça suppose qu'effectivement il y a une reprise des contenus qui sont diffusés depuis le site Canalus sous format XML et ensuite qui sont complètement remis en forme à l'appréciation du webmestre de l'ENT.
Monsieur Attray, vous voulez répondre?
Oui, là, on est typiquement dans le cas que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, ça dépasse évidemment le lien hypertexte. C'est évident que si on ne se situe pas dans le cadre du droit d'auteur, c'est des problèmes de droit d'auteur qui peuvent être réalisés, mais en tout cas en termes de responsabilité civile, à partir du moment où il y a un risque de confusion, une espèce de parasitisme qui est réalisé, puisqu'il y a l'internaute ne sait pas très bien où il se trouve et ni à qui appartient ou d'où vient la ressource qu'il a en face de lui, ça peut poser de grandes difficultés. Et j'en rajouterai encore une, c'est la problématique des bases de données. On a toute une série de décisions, notamment concernant les métamoteurs, et notamment je pense à la décision car emploi online contre quel job, où il a été jugé que la mise en place d'un métamoteur qui allait puiser donc des annonces d'emploi, mais ça peut être aussi de la ressource numérique pédagogique dans un certain nombre sur un certain nombre de sites ou de ressources tiers, qu'il est réorganisé, même si librement l'internaute pouvait avoir un accès individuel à chacune de ces ressources, donc violer le droit sui generis du producteur de la base de données que peut constituer chaque ressource en ligne. Donc ça, c'est intéressant aussi du point de vue de l'établissement qui met en place des ressources numériques. C'est qu'au-delà d'un certain investissement, si c'est pas simple, de la simple mise à disposition, on va dire en vrac de la ressource, et s'il y a un investissement dans l'organisation, dans la structuration de la ressource, il devient titulaire en tant que personne morale productrice de la base de données d'un droit de propriété intellectuelle qui va lui permettre de s'opposer à ce que d'autres personnes plus ou moins bien intentionnées ou d'autres établissements partenaires ou concurrents puissent réaliser les extractions donc non autorisées de ces ressources. Si j'étais clair.
Cela dit, le but c'est quand même que l'étudiant voit d'où provient la ressource, que les auteurs, les producteurs et les réalisateurs soient toujours associés au contenu qui est diffusé avec le logo Canalu. C'est pas non plus récupérer en vrac et n'importe comment. C'est quand même assez. On essaie de respecter le générique des programmes diffusés.
Donc, s'il y a une identification claire de la provenance de la ressource, il y a simplement des accords à avoir avec les producteurs, ou en tout cas les personnes titulaires de droit sur la ressource originelle, là, ça ne pose pas de difficulté particulière, surtout s'ils sont d'accord.
Merci. Madame Pommeret, d'autres questions ?
Oui, moi j'aurais une autre question.
Prenez le micro, je vous en prie.
En fait, je vais faire le lien aussi avec Canalu, puisque dans UVED, on a créé un ouvrage numérique, en fait, introductif aux sciences de l'environnement et du développement durable, qui est vraiment disponible dans l'espace public, en fait, du portail. Et on a décidé, en fait, d'y adjoindre des compléments. Donc, en fait, on propose, on a sélectionné des vidéos, des sites web, des publications. Et donc, en fait, dans ces sélections, on propose, donc, en fait, on ne renvoie pas vers la page d'accueil de Canalu, mais directement vers la vidéo en question qui pourrait être complémentaire, par exemple, un sujet sur la biodiversité qui est traité dans l'ouvrage. Et on s'est dit, voilà, on ne renvoie pas vers le site de Canalu, on renvoie directement vers la vidéo. Donc, par rapport, là aussi, à ce que vous disiez tout à l'heure de lien profond, j'ai l'impression que, là encore, je pense qu'on n'a pas... Je suis un peu dans l'illégalité, quoi.
Je vous en prie, si vous voulez répondre ou commenter.
Oui, effectivement, là, c'est typiquement le cas du lien profond. Alors, la réponse est en deux temps. Si le titulaire des droits, ou a fortiori l'auteur, donne son accord, il n'y a aucune difficulté. En revanche, on ne peut pas considérer que dans ces cas-là, la mise en place de ce type de lien soit anodine et ne porte pas à conséquence du point de vue de la propriété intellectuelle. Donc c'est autorisation ou donc on remonte dans l'arborescence pour avoir un lien hypertexte, on va dire, banalisé, et ne portant pas à conséquence ou ne pouvant pas entraîner de confusion possible de la part de l'internaute.
Donc en fait, la démarche serait quoi? De se retourner vers Canalu ou de l'auteur directement sans passer par Canalu?
Le titulaire des droits. Si c'est Canalu qui est cessionnaire des droits, mais apparemment ce n'est pas le cas, donc c'est se retourner vers le producteur qui en général lui-même est cessionnaire des droits des différents auteurs personnes physiques, à moins qu'il soit donc lui-même considéré comme auteur de l'œuvre collective. Ça dépend de la nature de la ressource. Ah, c'est évident. D'accord.
Je vais avoir en fait deux questions, une très courte et une peut-être qui va poser peut-être problème pour les UNT. Par rapport au lien profond, en fait, est-ce qu'une solution qui serait acceptable serait de faire
un lien profond et juste à côté un lien vers la page d'accueil du site? Est-ce que ça c'est un compromis acceptable? Parce que si on dit aller chercher la ressource tout au fond et qu'on ne donne pas l'endroit où elle est, ça ne sert à rien.
En fait, c'est ça. Si on a fait des liens profonds, c'est parce qu'on s'est dit que si on renvoie vers le site de Canalu, il aurait, enfin, je veux dire, l'utilisateur va perdre du temps pour chercher. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est illogique quelque part. On veut aider, c'est beaucoup plus efficace. On veut que tout de suite l'utilisateur puisse trouver la ressource complémentaire. Et donc voilà, s'il passe un quart d'heure à chercher la vidéo en question, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà.
Ça pourrait être une solution, mais à mon avis, la solution la plus simple, c'est de demander l'autorisation. Et on peut formaliser, d'ailleurs, si c'est, il y a des liens réguliers, des liens profonds réguliers avec une ressource donc, qui émane d'une même plateforme, c'est d'avoir une petite convention, même parfois de réciprocité avec une réciprocité.
Dans la pratique, c'est ingérable, parce que quand vous gérez un site web avec un portail, vous avez tellement de liens, c'est ingérable de demander des liens, enfin des autorisations à tout le monde. C'est...
Là, dans les cas qui ont été évoqués, ça avait l'air d'être... finalement limité à quelques partenaires, l'existence de liens profonds. Si vous visez un très grand nombre de sites d'origine extrêmement différente, là, moi, je vois pas, vous engagez votre responsabilité civile, je vois pas très bien comment on pourrait défendre devant un tribunal le fait que d'avoir mentionné à côté la page d'accueil. Et d'ailleurs, ça pourrait même se retourner contre vous. On l'a eu dans le cas que je citais tout à l'heure, Cadre emploi. Contre quel job disait, mais attendez, mais moi, ma bonne foi est facile à démontrer, puisque vous voyez, sur ma page qui extrait ces offres d'emploi, je mentionne bien que cela vient de Cadre emploi, et j'ai même le logo ou le nom de Cadre emploi. Et là, boum, ils ont pris en plus une condamnation pour contrefaçon de marque. Voilà. Donc,
enfin, ce genre de choses, on le trouve sur tous les sites web, y compris Google.
Bah oui.
Ah mais les liens profonds de Google, c'est complètement automatisé. On est dans du moteur de recherche automatisé. On n'est pas dans du... C'est le fonctionnement même du moteur. Donc là, c'est un moteur de recherche. Donc par définition, il permet de rechercher. Il conduit sur chaque ressource indépendamment. Mais dès qu'on a une recherche et un caractère manuel du lien, là, de ces cas-là, il y a un choix qui est fait, une possibilité de confusion.
Donc, tout à l'heure, vous avez parlé c'est ma deuxième question, les métamoteurs de recherche qui posaient problème parce que ça réorganisait l'information et que ce n'était pas très légal. Alors, la question que je pose, qu'est-ce qu'il en est pour les démarches ORI ou AI que les UNT sont en train de mettre en œuvre? Est-ce que c'est complètement illégal?
Parce que si. Ouais, si c'est un.
Alain Cabenoki.
Bon, moi j'ai plusieurs réponses et plusieurs questions. Sur ORI ou AI, les choses sont claires, tout au moins du point de vue d'un non-juriste.
Ça, c'est la réponse.
C'est pour ça que je l'ai bien précisé. Quand on veut moissonner sur ORI ou AI, il faut qu'on ait. Une exposition OAI qui est donnée par le site. Donc le site qui propose son exposition en OAI donc donne un droit de moissonnage. Donc la réponse à Christian, pour un scientifique, paraît claire. C'est l'établissement qui en fait son problème. Bon, ça c'est pour répondre à Christian. Si vous me permettez, je voudrais poser ma question. Au niveau des liens internes, je suis horrifié parce que ce que je viens d'entendre, il faut, je crois, faire une séparation entre deux fonctions tout à fait différentes. Quand vous parliez de quel job ou équivalent, c'est quelqu'un qui fait du commerce en agrégeant des informations qui viennent d'autres serveurs. Et ça, effectivement, c'est le point de Google, c'est les procès qu'il y a eu entre Google et Le Monde, par exemple, qui sont terminés par des contrats qui ont autorisé Google à citer Le Monde. Ça, c'est un point. Mais par contre, quand on veut citer un point à l'intérieur d'un site, par exemple, en tant que chercheur dans une discipline, je veux donner une référence à un papier d'un chercheur d'une autre, de la même discipline à l'étranger. Si vous m'interdisez de faire cela, eh bien, on va appeler Tim Berners-Lee et on va dire on ferme l'Internet.
Alors, réaction à la tribune. Il a dit qu'il était horrifié.
L'indexation est libre. La possibilité d'ailleurs de citer, y compris en utilisant des titres d'articles ou des noms d'auteurs, est libre. Là où ça pose problème et là où la responsabilité est engagée, c'est quand, finalement, par l'existence de ce lien profond, on crée un risque de confusion. C'est-à-dire qu'en faisant apparaître, finalement, une ressource au sein d'un site, l'internaute n'a pas conscience qu'il a quitté, finalement, le site dans lequel il était pour se retrouver sur un autre avec une gestion des droits ou des propriétés qui sont différentes, des intervenants qui sont différents. Donc je crois que c'est de là un problème. À partir du moment où on prend les précautions suffisantes pour bien montrer, d'ailleurs, par les pop-up, si on fait ouvrir une nouvelle fenêtre dans ces cas-là, c'est aussi une façon de montrer sa bonne foi en disant... Bah, on a un lien qui peut être assez profond, mais il n'y a aucune confusion possible, et l'internaute sait parfaitement qu'il se retrouve sur un autre site. Le problème du lien, c'est que si on commence à admettre les liens profonds de façon unanime et sans condition, c'est une façon de contourner les règles de propriété intellectuelle, puisqu'on va pouvoir piocher, on va pouvoir se faire un site, finalement, libre le droit, entre guillemets, sans aucun accord lié aux cessions de droits de propriété intellectuelle, en allant piocher, en recomposant, on va dire, les ressources que l'on va trouver sur le net, qui un petit logo, qui une petite musique, et voilà. Et donc, pour éviter cela, il faut poser quelques règles.
Merci. Hervé Krause va ajouter des éléments, sinon de réponse, du moins de réflexion.
C'est vrai, par rapport à la remarque qui vient d'être faite là, on nous a pollué Internet. Internet, au départ, c'est un outil entre scientifiques pour correspondre... Enfin, bon, tout à fait, au départ, c'est le département d'État des États-Unis, le département d'État de la Défense aux États-Unis. Bon, mais c'est devenu quand même un outil scientifique, et ce qui nous pollue tous, c'est le commerce électronique, et je suis désolé de dire, mais c'est aussi cette tentative de tout s'approprier. Il faut savoir, par ailleurs, il y a une contestation massive du droit d'auteur aujourd'hui, bon, qu'on connaît très bien par les téléchargements, etc., et que, effectivement... le droit d'auteur est une entrave à cette communication absolue que devait être normalement Internet. Mais on ne peut pas revenir en arrière, Internet est aussi un moyen de commerce juridique. Je le trouve moins sympathique qu'il était avant, mais bon, on ne va pas refaire le monde. Mais il y a un débat de fond essentiel là-dessus. Est-ce qu'on doit cloisonner Internet? C'est un contresens, effectivement.
Alors, Loïen Rabineau, Marina, s'il vous plaît. Oui, madame. Ensuite, Gilbert Touzeau.
Alors, à propos de droits d'auteur, je voudrais connaître l'avis de nos amis juristes. On a insisté plusieurs fois ce matin sur le droit sui generis du producteur de base de données à partir des contenus qu'il a organisés. Quel est le statut des données, des wikis et des blogs dans ce contexte? Est-ce que ça devient, une fois qu'il a été organisé, présenté, est-ce que ça devient la propriété intellectuelle du producteur de la base de données, oui ou non?
En tout état de cause, ça n'est jamais l'information elle-même ou la donnée elle-même qui change de main. C'est simplement qu'on rajoute, hein, je reprends l'analogie avec le millefeuille, c'est qu'on en rajoute une couche, pardonnez-moi l'expression, et qu'on crée, donc au-delà du droit de l'auteur, qui est l'internaute qui a répondu ou qui a fait son blog, qui a répondu et qui a fait un post sur le forum, donc on en crée une couche en considérant que sur l'exploitation d'une quantité substantielle, qualitativement ou quantitativement substantielle, de cette information, le producteur de la base de données, donc qui a fait l'investissement pour mettre en œuvre, mettre en forme, recueillir cette information, a lui aussi à être averti, à donner son autorisation. Donc, ça n'est pas un droit qui se substitue à l'autre, c'est un droit qui s'ajoute à l'autre. Maintenant, dans l'exemple que vous donnez, on a quand même, et là, la CJCE, donc en 2004, a fait un peu le ménage en posant des conditions assez restrictives quant à la définition de l'investissement qui permettait d'obtenir ce statut de nouveau propriétaire sur ce corpus documentaire. Et dans le cas donc de l'agrégation simplement de postes ou de wikis, etc., il ne sera pas évident au producteur de démontrer qu'il a véritablement réalisé un investissement substantiel. C'est derrière cela que l'on peut éventuellement se protéger. C'est pas, mais tout dépend des faits. Si effectivement il y a une équipe de personnes qui travaillent derrière pour tout remettre en forme, on peut aboutir à une base de données telle que, et donc un droit du producteur tel que défini par la loi.
Donc, on peut prendre le droit d'usage à l'auteur.
Alors, je vous dis à cause, puisqu'en exploitant l'information, il est de toute façon, il doit être cessionnaire des droits. Si on est éditeur, hein, là on se place, pardon, dans l'édition, on n'est pas simplement dans la mise à disposition de type hébergement. Hein, donc là, on est bien d'accord, il y a une activité éditoriale de refonte, de présentation qui dépasse la mise à disposition.
Merci, madame.
Bonjour, donc je suis Myriam Ravalet, chargée d'affaires juridiques à Rennes 1 et par ailleurs correspondante informatique et liberté. Et je voudrais revenir sur la première question qui a été exposée tout à l'heure. Pour une petite rectification, à mon sens, c'est que le CIL intervient, les déclarations sont toujours a priori. La différence, en fait, c'est que la CNIL fait un contrôle a posteriori. La charge du contrôle a priori s'est déplacée de la CNIL au correspondant informatique et liberté. Pour revenir à la question sur le traitement, ce que je dirais, c'est qu'il faut surtout s'attacher à la finalité de la constitution de ce traitement. Si effectivement la finalité est bien en lien avec le fonctionnement de l'ENT et qu'on respecte le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas collecter des données qui ne seraient pas indispensables au fonctionnement de l'ENT, qu'on respecte par ailleurs le droit des personnes, donc effectivement, à mon sens, il n'y a pas de déclaration supplémentaire à faire. C'était juste cette précision que je voulais
apporter. Merci, madame. Vous êtes d'accord à la tribune ? Pas de problème. Gilbert Touzeau.
Oui, depuis deux jours, j'ai quand même l'impression que, comme vient de le dire notre collègue, on est parti d'un Internet entre gens de bonne société qui voulaient partager pour aller vers un Internet de plus en plus marchand, avec des intérêts qui se croisent. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on reconstruise des arguments juridiques pour le monde enseignement-recherche où on dit explicitement ce que je mets dans tel site est de type enseignement, je caricature évidemment, mais est de type enseignement-recherche, et dans ce cadre-là, j'autorise les gens qui sont dans le même contexte à faire ce qu'ils veulent, y compris à aller dans des liens profonds, etc. Sinon, on n'en sortira pas, et dans 10 ans, je pense que l'enseignement et la recherche n'aura même plus sa place dans Internet. On va être à la fois pillé, à la fois bloqué partout. Donc on a un vrai problème là. Et si les juristes ne trouvent pas des moyens pour nous identifier, je ne sais pas si c'est le terme, on est mal parti.
Madame Bernot, qu'est-ce que vous répondriez à Gilbert Touzeau ?
J'aurais envie de dire que oui, dans un monde parfait, effectivement, on pourrait sans doute envisager cette solution. Je ne sais pas si véritablement on se dirige vers ce type de démarche, mais la difficulté, effectivement, c'est qu'Internet n'est plus limité à la communauté des scientifiques et qu'on le voit bien, notamment avec le peer-to-peer ou d'autres manifestations. Il y a de gros enjeux économiques. Après, peut-être que la réponse qu'on peut y apporter, alors encore une fois, je suis bien consciente qu'elle n'est pas forcément satisfaisante, hein, mais on peut quand même, il me semble, gérer beaucoup de choses par le contrat. Le contrat, c'est pas seulement pour interdire, c'est aussi pour autoriser. On peut prévoir que les utilisateurs ont le droit de faire quelque chose avec les données qu'on met à leur disposition. Dès lors qu'on s'est fait céder les droits par l'auteur, il me semble que rien n'empêche d'avoir comme ça une vision entre guillemets plus partageuse d'Internet. Alors, je suis bien consciente qu'il y a la lourdeur qui va avec le contrat, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panacée, mais peut-être que c'est une possibilité en attendant. Voilà. C'est, encore une fois, on perçoit le droit d'auteur souvent au contrat ou les cessions comme des moyens d'interdire, mais ce sont aussi des moyens d'autoriser.
Hervé Croze va ajouter un commentaire.
Creative Commons aussi maintenant, qui commence à être des œuvres dans lesquelles d'emblée l'auteur dit qu'il renonce à son droit d'auteur. Et d'ailleurs dans la DALSI, il y a un article qui est passé un peu inaperçu et qui semble un peu saugrenu, qui dit effectivement que l'auteur peut renoncer à son droit. On pouvait s'en douter, mais c'est sans doute pour favoriser ce type de démarche, mais c'est une démarche généreuse et sans aucune contrepartie, quoi, c'est tout le problème.
Je voudrais répondre avec une proposition.
Alors, une proposition.
Et on l'avait dit avec Albert Claude hier soir, moi je pense que la Creative Commons pose apparemment des problèmes parce qu'on peut ouvrir, mais on se garde le droit de fermer, etc. Nous aurions besoin, au moins pour les UNT, que les juristes nous proposent peut-être une Creative Commons à la française, à la sauce UNT. Ça ne doit pas être impossible de se créer une licence qui corresponde à nos besoins. Est-ce qu'on pourrait, à la sortie de ce séminaire, faire travailler quelques collègues sur le sujet.
Michel Armat.
Oui, j'ai une question à Karine Bernot sur la question des ENT et des UNT. Dans nos UNT, nous sommes amenés à fédérer des annuaires par la fédération d'identité avec Chibolette ou autre. Donc, vous n'avez pas abordé ce point-là. Dans votre réponse à Delphine Pommeret, vous lui avez dit pas de problème, elle peut avoir des annuaires composites avec des personnes des différentes universités. Est-ce que c'est si simple que ça?
Mais je crois que ce qui est déterminant, c'est de savoir qui a accès à l'annuaire. C'est-à-dire que dès lors que l'annuaire effectivement est accessible aux membres, c'est-à-dire aux usagers, qui vont s'identifier avec leur nom, leur mot de passe que vous leur avez attribué, effectivement, il me semble qu'on est dans l'hypothèse où les données ont été collectées pour permettre, enfin, dans un but précis du fonctionnement de l'ENT qui a été identifié. Donc, si le public en général n'a pas accès à ces informations, je crois, alors, sauf réaction contraire, qu'on est bien dans le cadre prévu par l'arrêté de 2006 que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'engagement de conformité que vous prenez au moment où vous créez l'ENT couvre cet usage-là des données personnelles. Ce qui est important, encore une fois, il me semble-t-il, c'est que ce ne soit pas accessible au public en général.
Jean-François Lemaître. Jean-François Lemaître.
Oui, mais on est bien d'accord aussi que les ENT sont soumises à un régime particulier. Comme je vous l'ai dit, sur la déclaration en particulier, il y a ce régime particulier qui est fixé par cet arrêté de 2006, qui a vocation à simplifier les choses, justement, pour éviter, il me semble-t-il, justement, ces déclarations multiples. Donc, l'idée, c'est on prend une fois pour toutes un engagement global de conformité. Après, si effectivement, il apparaît qu'on a outrepassé les dispositions de la loi de 78 ou de l'arrêté, on peut évidemment être condamné, procédures judiciaires sont possibles. Mais sur l'aspect purement déclaratif, l'idée, c'était quand même, me semble-t-il, encore une fois globalement, que cet engagement global de conformité couvre toutes les hypothèses de traitement des données nécessaires au fonctionnement de l'ENT. On est dans ce principe de proportionnalité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il me semble que sur ce point-là, on a quand même effectivement globalement atteint cet objectif de simplification.
Merci. Jean-François Lemaître.
Oui, moi j'écoute, je ne suis pas juriste non plus, mais j'écoute depuis hier, et j'ai l'impression qu'à chaque fois on revient non pas au caractère marchand ou non marchand, donc au droit d'auteur, et la façon dont travaille le problème de droit d'auteur. Le Creative Commons, alors on peut abandonner les droits quand c'est gratuit par exemple, mais à part, jusqu'à quand c'est gratuit? Quand on fait de la formation continue, c'est plus gratuit. Quand on fait, etc., à partir de ce moment-là, on change de régime. Alors la réponse, effectivement, dans le cadre actuel, c'est les contrats. Mais il faut un notaire internalisé à chaque université, plus un service complet de détective privé pour pister la propriété et retrouver qui il faut faire signer. Donc on est dans un système qui est devenu extrêmement lourd. Alors je comprends la demande de Touzo, mais c'est, je crois, en fait, le problème de la propriété des droits, hein, des droits d'auteur, qui est posé au centre, qui est au centre du débat.
Je crois
on
ne pourra
pas simplifier tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, et on n'est pas prêt de le faire.
On ne peut pas nier que ça entraîne des lourdeurs de gestion, des coûts de gestion, un suivi administratif, juridique et financier lourd. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire que là, l'application du droit d'auteur dans des conditions normales et légales n'engendre pas pour nous qui sommes des opérateurs UNT de lourdes contraintes se traduisant par des coûts, puisque je réponds à un économiste, par des coûts de personnel, de suivi, de gestion de contrat. On voit bien que même si on essaie de simplifier, d'alléger, de donner des réponses utilisables, au bout du compte, il y a nécessité d'avoir des gens compétents qui travaillent, qui gèrent les dossiers, qui les suivent, qui font les procédures en temps.
Et qui limitent le risque mais ne réduisent pas complet. Ça,
et
c'est l'économiste. Ils
ne le suppriment jamais.
Ça, c'est l'économiste des risques.
On l'a dit hier, la première intervention. Ouais. Le professeur Lucas, hier, a très bien dit ça. Il ne faut pas me demander de réduire à zéro le risque qui sera toujours là. On ne peut toujours avoir un procès qui ne tourne pas à l'avantage parce qu'il y a, vous avez bien vu, des zones de discussion ouvertes sur un certain nombre de points. Jean-Yves Capule a demandé la parole.
Oui, c'était aussi pour répondre un petit peu à Michel Armat, enfin pour répondre, pour insister sur la question qu'il posait, qui est la question de la fédération d'annuaire. Parce qu'effectivement, il y a une réglementation sur l'ENT, mais dans les établissements et systèmes d'information, ou même pour la diffusion de ressources, on agrège des annuaires, et on est en train de constituer dans le supérieur, mais je connais moins le dossier que certains d'entre vous, une fédération d'identité qui permet de simplifier l'accès à des ressources numériques pour tous les étudiants de différents établissements qui appartiendraient à cette fédération d'identité. Mais le problème qui se pose, et la CNIL a été très claire sur les ENT de l'enseignement secondaire, c'est qu'elle n'accepte pas qu'un éditeur privé qui souhaite mettre à disposition, même gratuitement, des ressources numériques à l'ensemble des données des personnes qui sont dans un annuaire, dans une fédération d'identité d'une académie, par exemple, la CNIL refuse que ces données personnelles soient transmises à l'éditeur qui voudrait mettre les ressources gratuitement. Et on a ce problème-là dans le supérieur aussi, on a des éditeurs qui souhaitent mettre à disposition gratuitement des étudiants un certain nombre de choses. Comment faire pour que ces ressources aillent bien chez l'ensemble des étudiants concernés sans que l'on soit soumis aux problèmes posés par la CNIL? Enfin, il y a peut-être des solutions techniques d'anonymisation, etc. Mais c'est un problème pour nous qui est en train de se poser, pour lequel on n'a pas encore tout à fait les réponses. Donc c'est une question à régler pour le ministère, tout ce qui est annuaire fédérateur et accès d'un ensemble qui dépasse un ENT à des ressources numériques gratuites ou payantes.
Et d'autres questions? Je vous en prie, madame.
À nouveau, une question plus pratique sur un outil précisément. Actuellement, pratiquement toutes les universités françaises utilisent Moodle comme plateforme de formation. Donc l'outil est déjà préparamétré, organisé pour collecter un certain nombre d'informations. En général, l'objectif, c'est de pouvoir suivre le parcours de l'apprenant et savoir ce qui a été fait sur le site. Donc il y a un certain nombre de traces. Alors déjà, il y a le problème juridique de la trace pédagogique sur une plateforme de formation. Ça, j'aimerais bien avoir quelques réponses par rapport à ça. Et il y a un autre souci, c'est qu'on s'est rendu compte récemment que lorsque le tuteur accède à son espace pour pouvoir suivre les apprenants, donc on a toutes les traces de ce qui s'est passé, mais parmi ces traces, il y en a une qui est très embêtante et très curieuse, c'est qu'on a le l'IP de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut savoir par l'IP où se trouve physiquement la personne au moment où elle a où elle est intervenue sur le site sur la plateforme. Donc ça, normalement, ça devrait faire l'objet d'une déclaration, a priori, sauf que ce n'est pas une volonté de l'université, c'est l'outil qui est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci. Oui. Alors, Madame Bernot, oui, mais vous êtes à la tribune, donc il y a une question qui est posée.
Effectivement, sur la question, semble-t-il, de l'accès à l'adresse IP de l'utilisateur, on est là face à une donnée personnelle sans aucun doute. Il me semble qu'on excède le principe de proportionnalité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc l'engagement de conformité dont on parlait, qui permet de simplifier les choses, manifestement ne couvrirait pas cet aspect-là des données personnelles qui sont exploitées. Alors après, quelle réaction avoir? A priori, moi, la prudence me conduirait à dire peut-être qu'il faut se retourner vers la CNIL et faire une déclaration complémentaire, mais je ne sais pas si
alors,
il y a peut-être des informations complémentaires.
Madame qui est correspondant CNIL.
Oui, alors moi j'ai travaillé avec le comité réseau des universités sur ce problème qui globalement est le problème des logs.
Le CRU, dans Chibolette, etc.
Voilà, et qui est celui de la conservation des logs. Et effectivement, on a deux soucis qui viennent de deux réglementations différentes, qui est d'une part la sécurité intérieure et d'autre part la protection des données issues de la loi informatique et liberté. Et on a pour l'instant résolu, mais on va dire provisoirement, le problème, puisque là il y a conflit entre la CNIL et le ministère de l'Intérieur. Et nous, on a résolu donc de faire une déclaration dans le registre informatique et liberté de l'université, avec l'accord de la CNIL, pour essayer de protéger nos administrateurs réseau essentiellement, d'ailleurs. Et donc on conserve pendant 3 mois, là on est sur la logique la plus basse d'obligation de conservation, donc 3 mois. Et au-delà, en fait, on conserve tout de même, mais sur un réseau à part. Donc on a fait la déclaration et ils ne sont pas communicables, y compris aux usagers, simplement sur une réquisition judiciaire. Voilà.
D'accord, merci. Question, Michel Morobelia.
Non, je voudrais simplement, à propos de l'adresse IP, dire que l'adresse IP n'est pas liée à la personne, mais à la machine. Hein, et que donc, il n'y a que si la personne est propriétaire de la machine, qu'effectivement, on peut faire un lien. Hein, oui.
C'est, s'agissant des données personnelles, si vous reprenez la définition, c'est la donnée qui rend une personne identifiée ou qui la rend identifiable. Donc, si on peut remonter jusqu'à la personne physique, ce sera une donnée personnelle. Non, alors après, sur le plan technique, à vous de me dire si c'est le cas ou pas.
Prenons l'exemple des salles libre accès où il y a des machines qui sont offertes aux étudiants. Elles ont des adresses IP. L'étudiant vient sur une machine un jour, il va sur une machine un autre jour. Bon, donc là, on est bien dans un cas où on peut se connecter, où ces machines peuvent être identifiées par un éditeur, puisque l'établissement peut donner une liste d'adresses IP, mais il n'y a pas vraiment un lien avec la personne.
Oui, la difficulté, je pense, par rapport à l'adresse IP, c'est que ça peut être une donnée personnelle ou pas.
Oui. Gilbert.
Selon le cas. Donc, a priori, qui peut le plus, peut le moins, il vaut sans doute mieux prendre plus de précautions que pas assez. Et dès lors que ça peut permettre d'identifier certains des utilisateurs, c'est une donnée personnelle.
Oui, parce que en pratique, si l'adresse IP était une donnée personnelle, on aurait résolu la question que nous posent les SDTIS de faire des enquêtes sur les usages, puisque Google nous donne toutes les infos qu'on veut sur les IP des utilisateurs, et on est capable d'en faire pas grand-chose.